RCF, il est 5h.
On s'attarde sur le portrait d'un sacré personnage de l'Ancien Testament, c'est celui de Salomon. Tout avait pourtant si bien commencé pour le roi Salomon. Il était riche, il était sage, il était pacifique, lettré, poète, et puis il était de la lignée des rois de David. Mais avec le temps, tout a basculé, les femmes sont devenues une conquête, il en a eu des centaines, sa fidélité au Dieu unique s'est transformée en passion pour les idoles. Étonnante figure qui vous a intéressé, Père Philippe Berachet, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes assomptionniste, prêtre assomptionniste, et vous êtes responsable de l'auberge de jeunesse Adveniat à Paris après plusieurs années à Bruxelles comme aumônier de l'université de Louvain.
C'est ça.
Et avec nous, et avec vous, nous partons dans le livre des rois. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que pour savoir ce qu'est la sagesse, il faut regarder de la vie de Salomon, ou alors peut-être faut-il en regarder qu'une seule partie ? Est-ce que vous iriez jusque-là ?
Il faut regarder toute la vie de Salomon, justement, pour voir, mais qu'est-ce que la sagesse ? Et finalement, à travers le récit de la vie de Salomon, qu'est-ce qui permet de conserver ou pas la sagesse ?
Alors, on va essayer de le découvrir dans cette émission. Nous sommes dans le livre des rois, plus précisément même dans le premier livre des rois. Quel est le point commun à tous ces rois dont on va raconter les histoires ?
Alors, ce qui est important, c'est que les livres des rois, ce sont d'abord des livres historiques. Ces livres historiques, on les passe souvent quand on les entend à l'Eucharistie ou quand on lit la Bible. Voilà, on pense que c'est des choses qui sont des vieilles histoires, comme on pourrait dire. Au contraire, les livres historiques dans la Bible sont des livres qui sont essentiels. Ils nous préparent à comprendre d'abord ce qu'est le prophétisme, ce qu'est aussi les écrits de sagesse, ce que sont les psaumes. Autrement dit, ce que nous rapporte le livre des rois, c'est d'abord une question d'art de vivre, une manière de finalement vivre sa vie, qui n'est pas une morale, qui est d'abord une vie quotidienne de tous les jours avec la présence du Seigneur. Et le point commun de tous ces rois, c'est au fond, mais est-ce que la fidélité à Dieu est possible ? Et qu'est-ce qui se passe quand on abandonne cette fidélité ?
Bah oui, parce que écoutez, quand on lit le livre des rois, en réalité, on a le sentiment que tous ces rois ont conduit la nation d'Israël directement à sa perte, Père Philippe Derached, est-ce que ces rois ont été à la hauteur des attentes et de la promesse ?
Alors effectivement, on peut dire que non, si on reste d'un point de vue humain, que les rois n'ont pas été à la hauteur. Mais si on comprend bien, on va dire, toute la matrice de l'écriture, ces rois sont d'abord des rois humains qui n'ont pas été à la hauteur d'accomplir la parole de Dieu. Et il y aura un autre roi qui va accomplir la parole de Dieu. Et au contraire des rois Salomon ou d'autres rois qui ont été sur des richesses ou sur beaucoup de pouvoir ou beaucoup de conquêtes, comme on pouvait le dire, eh bien, il y a un roi qui aura pour trône la croix et pour maison principale, on va dire, un tombeau et un tombeau vide. C'est le roi d'Israël, autrement dit Jésus le Christ, qui est ce roi qui va accomplir l'écriture. Il faut toujours lire finalement le récit de ces rois d'Israël comme cette impossibilité, on va dire, à l'humanité de vivre finalement sans Dieu.
Alors Philippe Berachet, aujourd'hui le roi qui nous intéresse, c'est Salomon, c'est un roi de l'ancien royaume d'Israël qui est réputé pour sa richesse. C'est le fils de David et de Bethsabée. Alors pour ceux qui feuillettent l'Ancien Testament, ils savent que c'est l'épouse d'Uri au départ, qui était un soldat de l'armée de David. Et puis David va s'emparer de Bethsabée, elle va tomber enceinte, elle a un premier enfant. Mais l'enfant meurt et David se repent de ses crimes, il aura un deuxième enfant. Ce deuxième enfant, c'est Salomon, ça veut dire paix. Est-ce que justement ce roi est différent et il va connaître une destinée maudite ou pas par cette histoire qui le précède ?
Alors on pourrait faire une analyse psychanalytique effectivement de Salomon. Ce n'est pas exactement ce que fait le livre des rois, encore qu'on pourrait peut-être le faire. Ce que nous rapporte le livre des rois sur cette figure de Salomon, c'est quel chemin on peut emprunter dans la vie avec finalement un héritage. Ou plutôt, quel héritage on choisit ? Parce que ce que nous rapporte le Livre des Rois et le chapitre 3 qu'on va lire, se font cette question. On a tous un héritage, ou on a tous plusieurs héritages. Et qu'est-ce qu'on choisit ? Est-ce qu'on choisit finalement ce qui va mal, ou ce qui nous est le plus facile ? Ou peut-être ce qu'on peut choisir, eh bien, c'est autre chose, quelque chose qui vient de Dieu.
Question à laquelle on va essayer de répondre et peut-être qui parlera à nos auditeurs. En tout cas, de Salomon, c'est vrai qu'on connaît peut-être plus le temple de Salomon, le jugement de Salomon s'y arrêtera, mais peut-être un peu moins la prière de Salomon. Et on va l'écouter, cette prière. Elle est justement dans ce chapitre 3 du premier livre des Rois. Et je vous propose d'écouter Hugo Vincent qui nous lit cet extrait.
Le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important, pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel un millier de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit « Tu as traité ton serviteur, David, mon père, avec une grande fidélité, lui qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité, tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter. Et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis. Mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. Et si tu suis mes chemins, en gardant mes décrets et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je t'accorderai de longs jours. » Salomon s'éveilla. Il avait fait un songe. Il rentra à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix et donna un festin à tous ses serviteurs.
Il n'y aura personne comme toi, on pourrait presque ironiser sur ces versets quand on sait la suite de l'histoire. Mais si on remonte un petit peu au verset 5, mais qui, on l'entend, est repris par la suite, « Demande ce que je dois te donner », cette question, elle est vertigineuse, cette question que Dieu pose au roi Salomon à travers un songe. « Demande ce que je dois te donner ». Est-ce qu'on doit, nous aussi, se poser cette question ? Qu'est-ce qu'on attend, au fond, de notre relation avec Dieu ?
Effectivement, on peut se dire que c'est une question qui est vertigineuse, mais en même temps, on voit avec vertige ce que Dieu fait avec nous. On pourrait imaginer un peu à l'image des dieux antiques, autrement dit, eh bien, des dieux qui sont comme Baal ou les dieux des pharaons, des dieux qui finalement manipulent les hommes. Ici, la figure de Dieu, elle est une figure intéressante parce qu'on voit que Dieu, et c'est tout à fait moderne, Dieu demande le consentement. Demander ici, ce n'est pas le maître des vœux ou le maître des rêves, on va dire. Ici, il s'agit bien de demander le consentement de ce que Dieu, eh bien, peut nous donner. Et c'est vrai que, comme Salomon, on peut tous avoir des choses à demander au Seigneur, mais ce que le Seigneur demande, nous, c'est notre propre consentement. Est-ce que nous acceptons finalement la grâce que Dieu veut nous donner ?
David Berached, si on poursuit un peu ce texte, qu'on arrive au verset 8, la question du pouvoir se pose aussi. Comment connaître son peuple? Comment le nommer, le compter, le qualifier? Le roi Salomon va commencer par dire qui il est à Dieu. Je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter. Est-ce que c'est une fausse humilité ou est-ce qu'il faut commencer par reconnaître qui on est pour pouvoir entendre ce qui est attendu de nous?
Alors, effectivement, il y a une question d'humilité, mais je remonterai un peu plus haut avec la question de cette filiation avec David, parce que on voit bien que ici, ce que fait Salomon dans cette prière, c'est que d'abord il fait un acte de reconnaissance. Il fait un acte de reconnaissance qu'il n'est pas tout seul et qu'il s'inscrit dans une histoire, dans un héritage. Et la manière dont il s'intéresse à son propre héritage, autrement dit à sa propre histoire, et c'est là où justement on pourrait faire intervenir peut-être la psychanalyse, on voit que eh bien, Salomon positive finalement l'histoire du roi David.
Alors, parce que si on recite peut-être Salomon, tu as traité ton serviteur David. Donc Salomon parle de son père.
Exactement.
Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, lui qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers toi.
Alors si on a lu le premier livre et le deuxième livre de Samuel, eh bien on peut s'étonner justement de ces paroles. On pourrait se dire eh bien Salomon fait un mensonge ou qu'il édulcore les choses. Au contraire, je pense que là il y a une incitation dans l'Écriture à notre rapport finalement à nos propres héritages. Et c'est là le premier enseignement de cette prière de Salomon. Quel est notre rapport à notre propre histoire et à la propre histoire de nos parents, de notre nation ou de nos groupes, de tout ça? Est-ce que finalement on n'a pas cette tendance un peu iconoclaste à tout détruire et à tout dire que tout ce qui s'est passé avant était tellement mauvais? Ou bien est-ce que on ose justement ces paroles comme Salomon à trouver le positif? Eh bien, souvent, dans parfois nos histoires compliquées de nos familles, de nos sociétés ou même de nos nations, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est justement de ressortir au moins ce qu'il y a de positif. Et ça, c'est une bonne leçon que peut nous donner justement Salomon. Et comment s'explique alors, eh bien, justement, cette manière dont Salomon a ce rapport au pouvoir? Lorsqu'il reconnaît évidemment cette humilité, cette capacité à dire « je suis un tout jeune homme », il dit « je suis d'abord le fruit de cette histoire ». Cette histoire, elle est, je la positive, je la reconnais, et en même temps, eh bien, moi, je ne suis pas grand-chose, mais je vais te demander, justement, que j'aille un peu mieux.
Père Philippe Berached, pourquoi est-ce que la question de la mémoire, elle est aussi présente dans l'Ancien Testament?
La mémoire, c'est l'identité. Il n'y a pas d'identité sans mémoire, il n'y a pas de mémoire sans identité. Ce qui permet de dire « je suis », on va dire, à la différence de Descartes, « je suis » est un « je pense ». Dans la Bible, « je suis », c'est « je suis ma propre mémoire ». Et c'est pour ça que c'est important, eh bien, justement, de bien avoir la question de la mémoire, c'est avoir une bonne mémoire. La mémoire de bonne, c'est au contraire de retirer ce qu'il y a de bon. Parce que, eh bien, en se donnant, Dieu se donne à travers une histoire, à travers un récit, à travers une histoire avec les hommes. Eh bien, ce qui importe, c'est de prendre ce qu'il y a de beau et de bon que Dieu a donné. Et c'est ce que fait Salomon. Et c'est là où est justement sa sagesse et son art de vivre qui commence. C'est là où il est capable de faire déjà ce premier discernement en accueillant ce qu'il y a de beau et de bon. Vous savez, c'est quelque chose qui est assez simple. Quand je vois des gens en confession ou en accompagnement spirituel qui me disent « j'ai du mal avec telle ou telle personne » ou « j'ai du mal dans tel ou tel groupe ». Eh bien, le meilleur moyen de pouvoir s'en sortir, de pouvoir sortir de ses propres émotions, de pouvoir sortir, c'est de dire « bon, très bien, on est peut-être en conflit, on est peut-être en difficulté avec telle ou telle personne, mais essayez de découvrir quelque chose de beau, quelque chose de bon, un charisme, une bonté, etc. chez telle ou telle personne, et cela pourra aider justement à bien vivre. » Et c'est ce que fait justement Salomon ici, en trouvant des choses bonnes et belles chez David, alors que si on a bien lu le livre de Samuel, il y a tout un tas de reproches. Eh bien, c'est ce qui permet justement, eh bien, de pouvoir avancer.
Et Salomon va avancer, en effet, et nous aussi dans le texte d'ailleurs, verset 9, parce qu'il va formuler cette fois-ci cette demande, il va répondre à la question de Dieu, et cette demande, elle est au verset 9, « Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Est-ce qu'il faut aller au-delà des qualités d'un bon chef, Père Philippe Berenchède?
Exactement, il faut aller au-delà des qualités d'un bon chef. Il y a deux choses. Que d'abord, dans cette demande au verset 9 de Salomon, on voit que la mémoire ne suffit pas. Même si, finalement, dans la mémoire, on retire les choses qui sont bonnes, ça ne suffit pas. Il faut avoir justement cette sagesse qui nous est donnée par Dieu. Et cette sagesse qui est donnée par Dieu, c'est justement des choses qui ne sont pas simplement des qualités humaines ou des qualités, on va dire, acquises à force de notre propre bras ou notre propre volonté, mais quelque chose qui nous est donné par Dieu. On va dire que c'est la grâce.
On ne maîtrise pas la grâce, est-ce que vous diriez ça? C'est quoi la grâce quand on dit que c'est la grâce de Dieu?
La grâce de Dieu, c'est justement cette présence de Dieu au plus profond de nous-mêmes et qui nous permet d'agir. Ça, c'est quelque chose. On pourrait dire, voilà, c'est un peu comme un peu le souffle qui aide un bateau à avancer. C'est cela, la grâce. Et justement, eh bien, c'est de reconnaître, c'est ce que fait Salomon, qu'on a aussi besoin de cette grâce. On n'est pas simplement le fruit de notre propre volonté ou de nos propres exercices ou de nos propres tempéraments ou pulsions. On est aussi le fruit de la grâce, autrement dit, eh bien, de l'action de Dieu dans notre vie.
Et c'est pour ça qu'il évoque discerner le bien et le mal, c'est fondamental dans sa relation aux autres, finalement, de discerner le bien et le mal en commençant par ça.
Exactement, et là, il faut bien peser les mots. C'est-à-dire que Salomon demande à Dieu, justement, eh bien, sa force, on va dire sa grâce, pour pouvoir discerner le bien et le mal. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle effectivement l'événement du jardin d'Éden, quand le serpent va dire, eh bien, à Ève puis à Adam, que justement, en prenant le fruit de l'arbre, c'est qu'ils pourront discerner le bien et le mal. Autrement dit, eux-mêmes vont pouvoir le choisir, ce qui est bien et mal. Et là, Salomon bien reconnaît que c'est en Dieu que se choisit justement ce qui est bien et mal, ce qui est capable, ce qu'on en est capable de discerner le bien et le mal. Mmh. Et donc on voit qu'il y a comme dans cette prière une antithèse eh bien, de ce récit du jardin d'Éden et du serpent. Parce que c'est là où se joue cette manière de vivre et cette manière dont Salomon désire vivre, c'est avec cette présence de Dieu qui permet justement eh bien, de choisir le bien et le mal.
Alors, est-ce que ce texte, donc, qui est la prière de Salomon à Dieu, est-ce qu'elle vient justement interroger la relation à Dieu? Parce que dans cette suite de dialogue entre Salomon et Dieu, Dieu vient lui dire, puisque c'est cela que tu as demandé, je fais ce que tu as demandé. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, on ne demande pas tout et n'importe quoi à Dieu? Il y a des demandes qui sont entendables et d'autres non? Ou au contraire, ça c'est un peu la question de la prière qui se pose ici.
Exactement, ça sera effectivement tout au long de l'écriture, cette manière dont on peut s'adresser à Dieu et qu'est-ce qu'on peut lui demander. Là on voit que la réponse de Dieu à Salomon, elle est très claire. Hein, c'est que c'est en demandant la sagesse. Dans l'évangile, on découvrira que c'est en demandant le royaume et tout vous sera donné de surcroît. Hein. On est toujours dans cette même, on va dire, matrice, dans ce même fil rouge. Est-ce qu'il y a des demandes qui, on va dire, ne sont pas permises? La réalité, c'est que dans la manière de demander à Dieu, c'est pas qu'il y ait une hiérarchie, c'est qu'il y a des choses qui sont d'abord plus importantes et d'autres choses qui, eh bien, ensuite sont secondaires. C'est la même manière dont on apprend les choses. Avant d'apprendre l'histoire et avant d'apprendre les mathématiques, il faut déjà apprendre à compter simplement et d'abord apprendre à lire. Eh bien, c'est la même chose avec la grâce de Dieu. Avant de demander peut-être des choses plus précises, peut-être de demander sa sagesse, c'est d'abord bien comme apprendre à lire ou d'abord apprendre à compter. C'est à la base.
Alors là, justement, Salomon, lui, il aurait aimé sûrement de longs jours la richesse ou la mort de ses ennemis, ce qui est écrit en tout cas dans ces quelques lignes. La richesse, la gloire, est-ce que c'est parce que ça, c'est un désir presque instinctif, en tout cas, est-ce que c'est ce qu'on attend d'un roi, peut-être, les attributs d'un roi, de manière plus classique?
Exactement, c'est ce que disait le chapitre 8 du prophète Samuel au premier livre. Le roi d'Israël est vu comme celui qui est un peu cupide, celui qui désire avoir le pouvoir. Et c'est un peu donc, une critique un peu de ce pouvoir royal. Ici, on va dire que ce que Dieu dit à Salomon, c'est qu'il ne l'établit d'abord pas comme roi. Il l'établit d'abord comme homme. Et ça, c'est quelque chose qui est révolutionnaire, on va dire, dans la pensée antique, et qui là, donne un peu une matrice de toute l'écriture, et qui peut-être n'est pas encore comprise. On imagine que justement cette prière de Salomon, ce serait justement une prière où Dieu va instituer le roi, va lui dire « tu as tel pouvoir, tu as telle puissance, tu as telle force ». Non, Dieu dit d'abord « tu as cette sagesse », autrement dit « tu as ce discernement », autrement dit « tu es un homme comme les autres ». C'est ça qui est fort dans ce récit, c'est que ce qui est demandé, ce que Salomon demande, un cœur qui ait de l'entendement pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien et le mal, etc., etc. Mais au fond, tout cela, c'est ce que tout homme et toute femme peut demander. Il y a derrière cette manière dont Dieu répond à Salomon de dire, très bien, vous pouvez être roi, vous pouvez être prêtre, vous pouvez être ceci, vous pouvez être cela, mais d'abord, eh bien justement, demandez cette sagesse. Autrement dit, eh bien, Dieu humanise d'abord Salomon.
On parlait de la sagesse, justement, aussi en début de cette émission. Salomon va recevoir ce don de Dieu, mais il va aussi le trahir. Est-ce que Salomon va être à la hauteur de ce que Dieu lui donne? On perçoit qu'il a une demande, il est écouté, il reçoit cette grâce, et puis il ne va rien en faire. Enfin, en tout cas, il ne va pas être à la hauteur.
Il ne va pas être fidèle. Parce que c'est ce que nous dit la fin de ce récit. Hein, c'est le verset 14. « Si tu marches dans mes chemins en gardant mes lois et mes commandements, comme David, ton père, je prolongerai ta vie. » Etc., etc. Autrement dit, le don de la sagesse n'est pas un don magique, mais au contraire, eh bien, une alliance qui nous fait entrer dans, on va dire, dans une relation de fidélité. Et c'est en perdant cette fidélité que finalement on perd cette sagesse. Mmh. C'est ça que ça veut dire. Et tout le récit, finalement, du livre des rois et même du livre des chroniques nous rapporte que l'infidélité conduit finalement à la catastrophe et conduit à la perte de cette sagesse. Mais ce qu'il y a d'intéressant et de fort, c'est que on voit dans ces récits des rois qu'il y en a un qui va être fidèle, et fidèle jusqu'à la croix. C'est le Christ. Parce que, au fond, qui est-ce qui a été fidèle? Qui est-ce qui a pu discerner le bien et le mal? Qui est-ce qui a pu rester dans les commandements et qui est-ce qui a pu vivre cette obéissance? Eh bien, c'est le Christ Jésus. Et le véritable modèle, finalement, du roi et du roi sage, c'est le Christ qui est en croix. Ce qui veut dire que, effectivement, Salomon n'a pas été fidèle et donc n'a pas respecté finalement cette prière, et que, effectivement, on peut demander à Dieu tout ce qu'on peut lui demander, on peut demander à Dieu, mais l'important, c'est effectivement de rester dans cette fidélité et dans ce chemin que Dieu donne.
Du reste, Salomon ne va pas dérailler tout de suite puisqu'il accomplit dans les versets qui suivent ce qu'on connaît un petit peu plus de Salomon, c'est le fameux jugement de Salomon.
Exactement.
Un mot sur ce jugement.
Alors, c'est d'abord une chose, c'est que la prière de Salomon, c'est une prière de demande d'avoir la sagesse. Et comment est-ce qu'on vit cette sagesse? À travers un jugement. C'est autrement dit, à travers des actes. Il n'y a pas finalement de sagesse qui est donnée à travers finalement quelque chose qui soit tout à fait hors sol et tout à fait, on va dire, en l'air. C'est d'abord dans le concret. Et là, on voit que Salomon est tout à fait dans le concret. Il est confronté à deux femmes qui demandent finalement la maternité de leur enfant. On voit que Salomon va résoudre l'énigme.
Et on voit bien que deux femmes se présentent avec un enfant.
Exactement.
Quand vous dites la maternité. Ouais.
La maternité, en demandant effectivement, eh bien, que c'est moi qui ai la mère de cet enfant. Et on voit bien que la manière dont Salomon va agir, c'est une manière qui est sage. On voit d'abord que Salomon, eh bien, ne va pas prendre parti. Hein, ce qui nous dit beaucoup de choses, c'est-à-dire que on voit que Salomon, en ne prenant pas parti, prend distance, mais une juste distance, et puis finalement il rend justice. Qu'est-ce que ça nous rapporte, ce récit du jugement de Salomon? D'abord, on voit bien que c'est la mise en pratique de la prière, mais aussi, on pourrait presque dire que derrière, il y a une sorte de sagesse qui est donnée, on va dire, presque sans référence à Dieu. On voit bien qu'après, dans le récit du jugement de Salomon, il n'y a pas de référence à Dieu. Autrement dit, ça reprend un peu ce que disait l'Évangile. C'est dans le chapitre 6 de l'Évangile, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais ceux qui accomplissent la parole de Dieu. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour justement évoquer la prière, il y a un temps pour demander, et il y a un temps aussi pour vivre ce qui nous a été donné dans la prière. Et le chapitre 3 est fort bien construit. On voit qu'il est bien séparé entre ce temps où on demande à Dieu et un autre temps où on répond de manière concrète à travers un acte de jugement ici, ce qui a été vécu et dit dans la prière. Et c'est ça finalement la vie spirituelle, c'est finalement demander à Dieu, être en relation avec Dieu, et aussi vivre et accomplir ce qui a été vécu dans cette relation particulière avec Dieu.
Philippe Berachet, au fond, qu'est-ce que ça vient nous dire sur le sens de la justice? Vécu avec Dieu, est-ce qu'il est différent?
Alors ici, on peut faire référence à un philosophe contemporain, Paul Ricoeur, dans un tout petit livre qui s'appelle « Amour et justice », qui disait que s'il n'y a pas de justice dans l'amour, finalement l'amour devient une sorte d'émotion évasive, et s'il n'y a pas d'amour dans la justice, eh bien la justice devient une extrême rigueur qui est asséchante. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que effectivement, la justice vécue, c'est d'abord une charité qui est en acte. Et c'est ce que vit finalement Salomon et ce qu'il pratique, parce que c'est vécu en Dieu. Qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, justement, c'est cette manière de se dire que cette sagesse, ce sens de la justice, ne vient pas seulement de moi. Vous voyez que Salomon est comme détaché dans ce récit par rapport à ces deux femmes. Il y a une sorte de... On pourrait dire qu'il surplombe. En réalité, il ne surplombe pas. Il sait très bien que ce qu'il a à faire, autrement dit à rendre justice, ne lui appartient pas. Et ce que finalement nous apprend ce récit, toute l'écriture, c'est qu'il est toujours essentiel de voir que les choses les plus importantes ne nous appartiennent pas forcément. Parce que ça nous permet justement non seulement de nous dire que nous sommes en toute humilité, parfois simplement humains, et que humains, nous avons aussi besoin d'autres, et surtout d'un tout autre.
Merci infiniment, Père Philippe Berachet, prêtre assomptionniste, de retour à Paris après quelques années à Bruxelles. Bruxelles, que nous remercions, parce qu'ils nous ont prêté leur studio. Un grand merci, et puis pour tous nos auditeurs qui souhaiteraient se replonger dans cette histoire passionnante de Salomon, dans ce dialogue avec Dieu, eh bien, c'est le Livre des Rois, le premier Livre des Rois, au chapitre 3. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup.
Après la mort, l'Église catholique affirme qu'il y a le purgatoire. Personne n'en est revenu. Alors sur quoi l'Église s'appuie-t-elle? Les explications avec le père Paul Denisot. A tout de suite.
La matinale RCF, Pierre-Hugues Dubois.
Ce mardi à 8h10, retrouvez l'invité de la matinale. Avec Louis Dauphren, nous recevons une personnalité au cœur de l'actualité. Décryptage singulier de notre monde et de ses enjeux, mais aussi découverte d'une personnalité, d'un parcours pour prendre de la hauteur et donner du sens à l'information. L'invité de la matinale, c'est ce mardi à 8h10.
Vous écoutez RCF à Sainte-Foy-l'Argentière sur le 101.7.
Le chapelet de Lourdes, c'est votre rendez-vous quotidien avec la prière. Depuis la grotte de Massabielle, suivez les méditations des mystères du rosaire en communion de prière avec les pèlerins et tous les auditeurs. Le chapelet de Lourdes, c'est tous les jours à 15h30 sur RCF et à la demande sur l'application RCF. Halte spirituelle, Madeleine Vatel.
Votre récompense sera grande dans les cieux, verset de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, verset 12. Oui, mais alors avant d'arriver au ciel et aux cieux, allons-nous passer par le purgatoire? C'est la question que vous vous posez, Père Paul Denisot, bonjour.
Bonjour Madeleine, bonjour à tous.
Vous êtes auteur du livre Le Purgatoire dans tous ses états avec Bénédicte de Saint-Germain aux éditions des Béatitudes. Alors le ciel, est-ce qu'il faut le gagner? Est-ce que c'est une rétribution de notre comportement sur terre, Père Paul Denisot? Est-ce que le purgatoire est un passage obligé en quelque sorte?
Alors le ciel, il faut le recevoir en fait avant de le gagner. Et je pense que c'est encore plus difficile d'accueillir la vie éternelle, d'accueillir Jésus, d'accueillir l'amour. Je pense que c'est pas une réalité à conquérir. C'est une rencontre à consentir et accepter que cette rencontre vienne me toucher au plus profond de mon être. Et c'est ça qui est le plus difficile, je pense. Il y a des témoignages de saints qui se sont laissés guider par l'amour, qui sont passés par des épreuves qui étaient pour eux un purgatoire. Je pense à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a vécu une...
Sur Terre, alors.
Sur Terre.
Un purgatoire sur Terre. Parce qu'on parle depuis le début du purgatoire au ciel. En réalité, beaucoup pourront vous dire qu'ils vivent actuellement un véritable purgatoire sur Terre. Comment l'entendre, ça?
Je l'ai compris en accompagnant mon père qui est mort d'un cancer, et pendant 3 ans, il a vécu, lui qui était un homme fort, un homme brillant, intelligent, enfin, ouais, une montagne, quoi. Un chef d'entreprise, un autonome. Eh bien, dans la maladie, il a lâché les responsabilités, il a appris à se laisser faire par ma mère qui s'est occupée de lui, par nous, par le personnel soignant, et il y a quelque chose d'un purgatoire, c'est-à-dire d'un lâcher, d'accepter une forme de dépendance. Je pense que la maladie, l'épreuve, sont dans nos vies des purgatoires, des moments où soit nous nous fermons, soit nous acceptons de lâcher, en fait. Et donc Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a vécu, je pense, sa maladie comme une purification, un vrai purgatoire. Et on sent qu'à la fin de sa vie, elle est toute ouverte à l'amour. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Sa mort, comme dit Benoît XVI, est l'accomplissement de ce qu'elle a vécu. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. On a l'impression... facile. Comme où les martyrs qui donnent leur vie, qui donnent ce qu'ils ont de plus précieux, ben voilà, il y a une espèce d'accomplissement. Mais est-ce que moi, au moment de ma mort, au moment de ce jugement, au moment de cette rencontre, eh bien, est-ce que tout aura été donné? Et ça, c'est une autre question.
Est-ce que le purgatoire, c'est un combat, en fait? C'est le lieu d'un combat, qu'il soit sur Terre ou qu'il soit au ciel. Et encore une fois, je le dis, tout ce que vous le dites à partir des Écritures, à partir du catéchisme de l'Église catholique, et vous êtes dans la dogmatique, donc c'est en tout cas ce que pense l'Église catholique après étude des textes.
Oui, bien sûr. Et puis, il y a aussi, on peut rejoindre, alors, non seulement les témoignages, et d'abord l'enseignement de ce que dit le magistère, et le magistère est toujours très prudent, il dit, voilà, attention aux images, attention, voilà, parce que c'est toujours très partiel. C'est donc faut toujours être, faut toujours faire attention quand on parle des réalités dernières, et ça le magistère de l'Église l'a sans cesse rappelé. Et mais il y a aussi des expériences de nos vies qui nous font pressentir un peu ce que c'est que le purgatoire. Par exemple, la maladie, le deuil, il y a des temps qui nous font pressentir un peu ce qu'est le purgatoire. Et oui, il y a une forme de combat, mais je pense que c'est le combat de s'abandonner à l'amour et de se laisser saisir par l'amour. Et en nous, il y a toujours des résistances. Et donc c'est d'accepter, je pense que vraiment le cœur du purgatoire, c'est d'accepter de tout recevoir de Dieu.
Alors on parle de purification quand on parle de purgatoire, on l'associe en tout cas, je ne sais pas si on doit dire ce lieu ou ce moment ou ce temps, en tout cas on l'associe à la purification. C'est toujours un peu dangereux de parler de purification, de pureté. Vous émettez une réserve là-dessus?
Bien sûr, parce que
C'est intéressant parce qu'on vit dans un monde qui cherche toujours une forme de purification. On l'a toujours trouvé dans toutes les cultures, là aussi, dans toutes les religions. Vous avez des l'ascèse, la pénitence, le jeûne, tout ça qui est un fond commun de l'humanité. Aujourd'hui encore, dans le Perche, on va embrasser des arbres, on mange du quinoa, on essaye de rechercher une purification. C'est toujours dangereux parce qu'on cherche une purification par ses propres forces et il y a une forme d'orgueil derrière. La purification de l'amour, c'est en fait au contraire, je pense que c'est se laisser transformer par un autre. Je pense que le purgatoire, c'est se laisser transformer par le regard du Christ. C'est accepter que l'autre, par son amour, me change.
Et qu'est-ce qui est purifié alors ? Ça consiste en quoi la purification de l'âme de l'homme ?
Ben, je pense que c'est laisser tomber certaines séquelles du péché, certains mauvais plis. Vous savez, Dieu nous pardonne toujours si nous lui demandons pardon. Dieu est un Père miséricordieux qui nous veut encore plus au ciel que nous-mêmes. C'est ce que dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit « Ne visez pas le purgatoire, visez le ciel, parce que Dieu vous y veut encore plus que vous-même ne souhaitez y aller. » Donc Dieu nous veut au ciel, mais il y a en nous des mauvais plis, des entraves. Vous voyez, par exemple, des refus de pardonner. Est-ce qu'il y a en moi aujourd'hui encore des refus de pardonner? Parce que, et sans doute pour des bonnes raisons, parce qu'on m'a fait mal, parce que j'ai été victime d'une injustice. Mais dans l'amour, il n'y a plus d'amertume. Il n'y a plus de rancune, il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus d'égoïsme. Tout ça a été déposé, en fait, comme des oripeaux. Et je pense que on a tous besoin, enfin, pas tous, j'espère, mais, sauf si l'élan d'amour est, pour le Christ au moment de notre mort est fort et nous permet de tout lâcher, comme l'ont fait les martyrs. Mais je pense que moi, en tout cas, j'aurais besoin d'être dégagé de certaines mauvaises habitudes, certains mauvais plis, des mauvais jugements. Et donc tout ça, j'aurais sans doute besoin d'être guéri de cela. Ouais.
Et pourquoi cela aurait lieu au purgatoire et pas sur Terre, finalement ?
Alors, ça a lieu déjà aujourd'hui. Mais au moment de notre mort, c'est un peu comme le McDo. Je pense que Dieu, venez comme vous êtes. Ça, c'est super, la pub McDo. Eh bien, au moment de notre mort, nous viendrons tels que nous sommes. C'est-à-dire en fonction de l'ouverture de notre cœur au moment de notre mort. Et est-ce qu'il sera complètement ouvert ? C'est à demander d'ailleurs. C'est demander cette grâce de la rencontre et de se laisser complètement saisir par le Christ. Mais est-ce que je l'aurais laissé tout saisir ? Est-ce qu'en moi, il n'y aura pas des petites séquelles ? Vous savez, des petits kystes dont j'aurais besoin d'être guéri ? C'est ça la question.
Mais est-ce que ça veut dire aussi que c'est pour ça qu'il y avait aussi cette pastorale de la peur, c'est-à-dire de se dire je n'y arriverai pas, je suis pécheur, ma vie n'est pas aussi bonne que j'aimerais qu'elle le soit, et alors on vit avec cette culpabilité.
Bah bienvenue au club. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'on a tous soif de quelque chose d'autre et on se rend bien compte que par nos propres forces nous en sommes incapables. Et justement, bah voyez, un saint qui n'est pas passé par le purgatoire et qui est à Montlignon un modèle, c'est Dismas, celui que la tradition a appelé Dismas le bon larron. Le bon larron, il est conscient que ce qu'il vit est juste, en fait. C'est une justice, sa mise à mort. Sans doute qu'il a commis des crimes graves. Enfin, pour être crucifié, fallait quand même... voilà, il n'avait pas volé un pot de confiture. Et au moment de sa mort, il se tourne vers le mauvais larron. Enfin, vers le mauvais, vers l'autre larron. C'est pas, en tout cas, le larron qui insulte Jésus. Il lui dit, bah, pour nous, c'est juste, mais lui n'a rien fait. Donc, il y a déjà une reconnaissance d'une forme de justice. Et en se tournant vers Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. C'est-à-dire, cette démarche d'humilité, je n'ai droit à rien, je n'exige rien, je te demande juste, toi Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. C'est c'est d'une humilité dingue, c'est une déclaration de foi extraordinaire. Et la réponse de Jésus, aujourd'hui tu seras avec moi. C'est ça la vie éternelle, d'être avec Jésus, tu seras avec moi au paradis. Voilà. Donc, pour moi, c'est lui le modèle de la bonne mort. J'espère qu'au moment de mourir, ben, je me tournerai vers Jésus en lui criant la même chose. Souviens-toi de moi.
Et alors, vous parliez de justice, justice humaine, justice divine, il y a une différence ?
Oui, heureusement. Vous voyez, j'ai rencontré récemment des juges qui venaient visiter Montlignon et qui nous disaient, les gens ont une telle demande de notre part, il y a une telle attente. Une
justice... Vis-à-vis des juges ?
Oui, vis-à-vis.
Terrestre.
Oui, de rendre une justice qui est... Enfin, l'idéal de justice est fou et on n'y arrive jamais. Et d'ailleurs, pour Benoît XVI, c'est une des voies vers l'existence de Dieu. C'est de se dire, l'homme n'est jamais satisfait de la justice humaine. On n'est jamais satisfait. On a toujours soif de plus de justice. Et donc, ça veut dire qu'en l'homme, il y a une soif de justice qui, ici-bas, ne peut pas être comblée. Et ce qui est beau, d'ailleurs, c'est qu'il ne peut pas se résoudre à cette injustice. Nous, notamment en France, on passe notre temps à râler, à nous indigner, parce qu'il y a une soif de justice dans le cœur de l'homme. Et ça, pour Benoît XVI, et je le partage, hein, je trouve ça magnifique, c'est que l'homme, il a soif d'une justice que Dieu seul peut rendre. Et cette justice de Dieu n'est pas une justice extérieure, c'est une justice qui transforme aussi le cœur de l'homme.
C'est une justice avec sanction ?
Je dirais sanction dans le sens où elle met en lumière le fond de notre cœur et elle met en lumière notre choix fondamental. L'enfer, par exemple, Dieu sanctionne, c'est-à-dire qu'il... Ben voilà, c'est ce que tu veux en fait, et je ne peux pas m'opposer à ton refus, à ton obstination.
Donc vous voyez, l'homme se sanctionne.
L'homme se sanctionne lui-même, et on dit que Dieu sanctionne par le fait qu'il consent aussi à ce jugement définitif de l'homme. Mais pour le purgatoire, c'est une justice qui transforme, c'est-à-dire c'est vraiment l'union entre l'amour et la justice, la miséricorde et la justice, qui vient transformer le cœur de l'homme et de l'âme qui va expier. Mais en fait, l'expiation, c'est le sens où la justice, c'est pas juste une justice extérieure, c'est une justice qui va profondément me transformer et me rendre à moi-même, me guérir.
Donc ça veut dire que ça vient aussi de nous, en quelque
sorte. Oui, ah ben bien sûr. Et d'ailleurs, Sainte Catherine de Gênes dit les âmes, elles vont d'elles-mêmes en purgatoire. C'est-à-dire que c'est pas, elles se sentent pas prêtes à entrer dans la gloire. Et pour Sainte Catherine de Gênes, l'âme va être d'elle-même au purgatoire. C'est-à-dire qu'elle elle n'exige rien. Elle rentre d'elle-même dans ce temps de la purification. C'est comme le fils prodigue. Le fils prodigue, quand il se jette aux pieds de son père... Il lui dit « Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel ». Le père l'écoute, mais l'embrasse. Et lui laisse même pas le temps de terminer. Il dit à ses ouvriers « Mettez-lui des sandales aux pieds, une bague au doigt, une belle robe ». Voilà, il le prépare pour rentrer dans la salle du festin.
Merci beaucoup, Père Paul Denisot. Vous êtes recteur du sanctuaire de Montligeron, sanctuaire où les pèlerins viennent justement prier pour leur mort. Vous avez coécrit ce livre, publié aux éditions des Béatitudes avec la journaliste Bénédicte de Saint-Germain, intitulé « Le purgatoire dans tous ses états ». Et on vous retrouve demain. Et nous retrouvons tout de suite Oxygène, une émission proposée par Camille Meyer.
Aujourd'hui, nous sommes avec le père Thierry de Lesquin, curé de Saint-Albert-le-Grand à Paris. Il sera question de la Providence.
Oxygène. Oxygène, une émission proposée par Camille Meyer.
Père, la question qui s'impose lorsqu'on évoque la Providence, comment peut-on articuler cette toute-puissance de la volonté de Dieu avec notre liberté ?
Je vous propose d'avoir recours à des catégories philosophiques anciennes, pourtant assez méconnues, peut-être pas connues de vous, de certains d'entre vous quand même. Ce qu'on appelle la cause première et les causes secondes. Vous inquiétez pas, c'est pas compliqué, je vous explique. Je vais prendre un exemple, ça ira plus vite. L'exemple de la procréation. Le petit bébé provient de la relation de chair entre ses parents et de la gestation dans le ventre de sa maman. Donc la cause immédiate, on dirait, de l'engendrement de ce bébé, ce sont ses parents. Mais celui qui donne la vie à travers les parents, ben c'est Dieu. Donc la cause première, c'est Dieu. Et la cause seconde, les causes secondes, instrumentales, si vous voulez, ce sont les parents. Ouais, c'est pas compliqué. Donc la providence relève en fait de la cause première. C'est assez éclairant, vous voyez, qui est au fondement de notre histoire, de tout ce qui nous arrive, mais qui agit ordinairement par des causes secondes, si bien qu'on l'ignore facilement si on survalorise les causes secondes, comme notre monde contemporain le fait tant. Vous voyez. Si les causes secondes suffisent, pourquoi s'intéresser encore à la première ? Alors, la Bible, elle, nous dit abondamment que c'est bien Dieu qui veille sur nous. On en a plein à l'écriture des traces de ça. Il ne dort pas, il ne sommeille pas le gardien d'Israël. Ce sont les psaumes. Dieu est pour nous refuge et fort, secours dans la détresse toujours offert. Je cherche le Seigneur, il me répond. L'écriture n'arrête pas de nous montrer un Dieu qui est proche des hommes, qui est proche de nous, qui s'occupe de nous. Et Jésus va jusqu'à nous dire de ne pas nous soucier des détails de notre vie. Il s'occupe de vous. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. Nous pouvons donc avoir confiance, nous dit Jésus. Parce que, alors, cette phrase magnifique, si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ? Saint Augustin reprenait tout ça en affirmant que rien n'arrive sans que le Tout-Puissant veuille que cela arrive, soit en le laissant arriver, soit en le faisant lui-même. Rien dans notre vie n'est dû au hasard, dit-il. Sache que tout ce qui arrive contre notre volonté, même ce qui arrive contre notre volonté, ne peut venir que de la volonté de Dieu, de sa providence, de l'ordre qu'il a créé, de la permission qu'il donne et des lois qu'il a faites. voyez, donc chaque événement, tout ce qui nous arrive, c'est comme une parole que Dieu nous adresse. Il est présent dans tout ce qui arrive. Et si on se révolte pas contre les événements quand ils sont difficiles, bien sûr, si on y consent de tout son cœur, alors on accepte tout comme une parole de Dieu en vivant sa présence. Dieu est présent en tout ce qui nous arrive, dans tous les détails de notre vie, non pas en gros ou de loin. Voilà. Ça, c'est vraiment la notion de providence chrétienne. Nous croyons que Dieu est présent en tout.
Père Thierry Lesquin, vous évoquiez la liberté au début de l'émission. Si tout est écrit, comment fait-on pour échapper au fatalisme ?
La difficulté que nous avons à répondre à cette question vient du fait que nous, on est capable de penser la connaissance sans amour. François Varillon écrivait ça, c'était assez éclairant. La limite humaine, c'est pouvoir connaître sans aimer et aimer sans connaître. La connaissance sans amour est ce regard de l'esprit sur soi qui bloque l'élan de l'âme. Eh bien ça, disait-il, c'est ce qu'il faut nier quand on affirme l'omniscience de l'amour de Dieu. Chez lui, il n'y a pas de distinction entre la connaissance et l'amour. Il connaît tout sans que rien ne soit un spectacle pour lui. Nous, on peut connaître à distance sans être impliqué personnellement. Nous sommes vraiment libres en réalité d'adhérer ou non à la volonté de Dieu. Ne rien faire de soi-même, ça ne veut pas dire ne rien faire du tout, c'est ne pas faire tout seul. Est-il un homme qui craigne le Seigneur, demande le psaume 24, Dieu lui montre le chemin qu'il doit prendre. Il faut donc prendre au sérieux cette logique divine qui compose avec notre liberté et non pas sans elle, si bien que sa providence passe ordinairement par des médiations humaines, ces fameuses causes secondes que j'évoquais tout à l'heure, qui sont aussi bien chez les autres que en nous-mêmes. Un Dieu que je ne peux rencontrer que dans mon cœur, disait le père Stinnison, mais pas dans les personnes et les éléments, n'est pas vraiment incarné. Alors apparaît un dangereux dualisme. Le contact avec Dieu se réduit à quelques moments ou périodes privilégiées, tandis que le reste de ma vie se passe sans Dieu. En fait, Dieu compte sur les hommes pour donner ses dons aux hommes. Alors, une autre question majeure se présente, c'est celle du mal, bien sûr. La question de la providence divine semble se heurter à ce problème. Le livre de Job disait, Job au chapitre 21, « Pourquoi les méchants demeurent-ils en vie et même en vieillissant, accroissent-ils leur fortune ? Ils voient leur postérité s'affermir auprès d'eux et leur rejeton sous leurs yeux. Leur maison en paix ignore la peur, la férule de Dieu les épargne. » Comment ça se fait ? C'est pas juste. Il faut en réalité aller jusqu'à dire que Dieu est présent, attention c'est très scandaleux, et Dieu est présent dans le bien comme dans le mal. Job 1, 21, « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, Job a tout perdu, que le nom du Seigneur soit béni. » Alors saint Augustin analyse, « Il est vrai que les méchants agissent souvent contre la volonté de Dieu, mais sa sagesse et sa toute-puissance sont si grandes que tout ce qui semble s'opposer à la volonté, à sa volonté, contribue en fait au bon résultat et aux fins qu'il avait fixées d'avance. » Dieu accomplit sa volonté, disait-il encore, bonne, Dieu accomplit sa volonté bonne à travers la volonté mauvaise du méchant. C'est ainsi que le dessein d'amour du Père a été réalisé par les Juifs et que Jésus est allé jusqu'à, pour nous, à la mort. Vous voyez, le plus bel exemple que nous ayons de cette puissance divine sur le mal lui-même est dans la croix du Christ, qui est le pire de tous les maux, M-A-U-X, qui se soit jamais fait sur la terre. Dieu ne l'a-t-il pas transformé pour en faire le plus grand de tous les biens, l'instrument de notre salut ? Et ça, c'est la clé de compréhension pour chacun d'entre nous dans nos vies. La croix est le modèle que tout croyant doit intégrer pour accueillir ses propres croix, avec la certitude que Dieu peut les convertir en bien.
Donc Père, la foi en la providence divine doit nous libérer de toute inquiétude.
De toute colère, de tout ressentiment, pour nous faire vivre dans une confiance inconditionnelle. Comment peux-tu reconnaître, disait le frère Silouane, un saint homme orthodoxe du mont Athos, que les orthodoxes considèrent comme un saint, comment peux-tu reconnaître que tu vis conformément à la volonté de Dieu ? En voici le signe. Si tu es préoccupé de quelque chose, cela veut dire que tu n'es pas complètement abandonné à la volonté de Dieu, même si tu crois vivre selon sa volonté. Celui qui vit selon la volonté du Seigneur ne se fait aucun souci. S'il a besoin de quelque chose, il l'abandonne, et lui-même avec, au Seigneur. Il se remet entre ses mains, et s'il ne reçoit pas le nécessaire, il reste calme, comme s'il l'avait reçu. Quoi qu'il arrive, il n'a pas peur, car il sait que c'est la volonté de Dieu. S'il est atteint d'une maladie, il pense « j'ai besoin de cette maladie, sinon Dieu ne me l'aurait pas envoyé ». C'est ainsi qu'il conserve la paix du corps et de l'âme. Alors évidemment, on pourrait faire attention à la formulation « Dieu m'a envoyé la maladie », mais on comprend quand même l'idée qui est derrière. Si on s'en remet à la conduite de Dieu, on n'est jamais frustré. Si on ne peut pas obtenir quelque chose, c'est qu'on pense qu'on n'en a pas besoin. Si bien que concrètement, vous voyez, plus notre vie est orientée, concentrée sur le moment présent, plus on communie à la volonté. De plus en plus, plus notre vie est orientée, concentrée sur le moment présent, plus nous communions à la volonté de Dieu. Et là, vous retrouvez vraiment du Thérèse de Lisieux. Hein. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. La sainteté n'est pas une pratique. Hein. C'est dans cette confiance qui va jusqu'à l'audace en la bonté du Père.
La Providence au cœur de ce nouvel épisode. Merci Père Thierry de Lesquin, je le rappelle, hein, vous êtes le curé de la paroisse Saint-Albert-le-Grand à Paris.
La prière du matin.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là, que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. » C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils.
J'écoutais récemment un podcast sur les bienfaits du sommeil. Il paraît que le sommeil permet de digérer les émotions, d'aiguiser son esprit, d'améliorer la créativité et la mémoire. Que de bienfaits qui devraient nous inciter à faire des nuits plus longues. Mais voici que Jésus nous demande le contraire. Il faut être réveillé à minuit, voire à 3 heures du matin, et non seulement être réveillé, mais être en tenue de travail, les lampes allumées. En tenue de travail, vraiment, Jésus parle plutôt de ceinture autour des reins. Et cela fait écho à la prophétie de Jérémie. Dieu lui demande de mettre la ceinture qu'il porte sur ses reins dans le creux d'un rocher, dans l'Euphrate, et de la laisser là. Lorsqu'il retourne la chercher, longtemps après, elle est pourrie. Dieu a alors ces paroles. Voilà comment je ferai pourrir l'immense orgueil de Juda et de Jérusalem. En effet, de même qu'un homme s'attache une ceinture autour des reins, de même je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda. Mais elles n'ont pas écouté. Lorsque Jésus nous parle de ceinture, il nous parle donc des peuples que Dieu s'est attaché à lui. Du monde. Il nous demande, en nous attachant la ceinture à nos reins, de nous attacher au peuple du monde, de partager une destinée commune avec l'humanité qui nous entoure. Et si nous sommes assez vigilants dans cette tâche, nous verrons le Maître Jésus-Christ prendre la ceinture sur lui, intercéder pour les peuples du monde et partager son repas avec nous. Et ceci, à l'heure où l'obscurité est totale, où nous aurons peut-être douté de nous-mêmes et de la marche du monde, c'est à cette heure que Jésus viendra nous consoler.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Restez en tenue de service.
Le saint du jour, Isabelle Delaunay.
Bonjour, en ce 22 octobre, nous fêtons les Élodie, les Salomé et aussi saint Jean-Paul II. Élodie est un prénom qui pourrait signifier en grec « fleur fragile ». Sainte Élodie est une martyre du 9e siècle en Espagne. Née d'un père sarrasin et éduquée avec son accord par sa mère dans la foi chrétienne, un nouvel édit de l'émir de Cordoue lui impose d'embrasser la religion de son père. Mais elle refuse de devenir musulmane. Elle fut alors emprisonnée et elle fut tuée tristement d'un coup de sabre. Nous fêtons aussi les Salomé. Salomé, c'est la mère de Jacques et Jean et la femme de Zébédée, l'une des femmes qui suivait Jésus et qui fut témoin de sa résurrection. Quant à Jean-Paul II, nous le fêtons depuis le 27 avril 2014. Il fut le 264e pape de 1978 à 2005. Son pontificat, bien que contesté, marquera non seulement l'histoire de l'Église, mais aussi l'histoire politique. Premier pape polonais, l'athlète de Dieu, comme le surnommait le cardinal Marty, robuste et énergique, venu en 1978 de derrière le rideau de fer, il connut à la fois le nazisme et le communisme. À 22 ans, il entre au séminaire clandestin à Cracovie, ville dont il devint évêque auxiliaire en 1958. C'est à ce titre qu'il participa au Concile Vatican II. Voici ce que le théologien Yves Congar écrivit sur lui dans son journal. Wojtyla fait une très bonne impression. Sa personnalité s'impose. Il rayonne d'elle un fluide, une attirance, une certaine force prophétique très calme, mais irrécusable. Jean-Paul II a redonné une impulsion au culte des saints. Ainsi, il béatifia de nombreuses personnes, tant laïques que prêtres et religieux, montrant que tous les états de vie, le mariage comme la vie religieuse, étaient des formes possibles de la sainteté. On retiendra surtout son « N'ayez pas peur » qu'il prononça le 22 octobre 1978, alors qu'il venait d'être élu pape.
Tous les jours, le meilleur de la musique classique est en représentation dans Tous Mélomanes. Une équipe de passionnés de musique classique vous immerge dans l'univers des plus grands compositeurs et vous présente les meilleures nouveautés. Tous Mélomanes, c'est du lundi au vendredi dès 16h sur RCF.
Vous écoutez RCF à Martigues sur le 101.9.
Sur RCF, suivez l'actualité internationale grâce au journal de Radio Vatican. Du lundi au vendredi, la rédaction francophone vous donne rendez-vous à 8h30, 13h et 18h, ainsi que le samedi à 18h. Avec Radio Vatican sur RCF, restez connectés au monde.